de Radio Courtoisie, ce libre journal de la France fidèle du 23 mai, réalisé en direct, signe le retour de l'irremplaçable Philippe Richard. Il nous avait manqué, accompagné de votre serviteur, le modeste Firmin. Que pouvait-on espérer de mieux pour ce retour triomphal que l'invité de ce soir ? Nous avons la chance d'avoir dans notre studio une consultante en communication, essayiste de surcroît, qui depuis peu fait l'unanimité autour de son nom dès qu'on parle de prolophobie. J'ai nommé Diane de Bourguédon, dont l'étude, intitulée « Les indésirables », est parue il y a 2 mois aux éditions Fayard dans la collection « Pensée libre ».
Bonjour madame.
Bonjour.
On ne le cachera pas, vous êtes une cousine de Fernand.
Absolument.
Et alors, à Fernand, tout honneur et toute rapidité, si je peux dire, il va poser la première question.
Eh bien, chère Diane, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?
Eh bien, ça remonte il y a quelques années, au moment des Gilets jaunes, plus précisément. Je me suis sentie touchée par les doléances de ces personnes qui se réunissaient sur les ronds-points, et en empathie avec elles. Et j'ai eu la déconvenue de constater que parmi les gens de mon entourage, ce mouvement ne faisait pas l'unanimité. C'est-à-dire qu'il y avait quelques personnes qui les comprenaient, mais je dirais que la majorité était entre l'indifférence et l'hostilité. Et cela m'a beaucoup contrariée, puisque je me suis dit, mais il y a une rupture au sein du peuple français qui est assez profonde. Et que de bon peut arriver quand il y a une telle dissociation, finalement, au sein d'un peuple.
Bon, satisfait, Fernand ?
Très bien.
Bon, mais comment avez-vous trouvé, avez-vous inventé ou popularisé seulement le mot prolophobie ?
Alors, j'ai préféré utiliser ce mot-là plutôt que le mépris de classe, puisque quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet et à écrire mon livre, j'ai pris conscience du caractère systémique du mépris de classe en France. Et j'ai trouvé que le mot prolophobie, qui était un petit peu un pied de nez aussi au wokisme et à toute la valse des phobies qui se danse chaque jour. J'ai donc utilisé ce mot-là et j'ai pensé que je l'avais inventé, mais en réalité, il préexistait.
Ah
il
bon
avait déjà été inventé par quelqu'un d'autre. Je m'en suis rendu compte bien après avoir écrit ce livre. Et c'est
mais
tant
qui
mieux.
N'a pas eu votre succès.
Bah écoutez, j'aspire en tout cas à lui redonner ses lettres de noblesse et puis à le populariser fortement.
Et à quel moment vous vous êtes dit « il me faut un mot pour décrire tout ça » parce que finalement, ce mot conjugue à la fois le mépris de classe, qui est une chose classique hein, en France, hein, il y a toujours eu un mépris de classe, mais plus ou moins teinté de paternalisme ou d'autres sentiments, et puis le wokisme.
Exactement, c'est-à-dire que c'est tout à fait paradoxal de constater que chaque jour, une nouvelle phobie est inventée. On ne va pas toutes les lister, mais la transphobie, la glottophobie, la grossophobie, on n'est pas avare en invention sémantique. Il y en a une, en revanche, qui concerne, il me semble, la majorité ordinaire, la majorité silencieuse, et c'est la prolophobie, précisément. C'est une discrimination qui se produit de manière insidieuse, tacite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas revendiquée comme telle, elle est d'ailleurs pas vraiment reconnue, et j'ai voulu pour ma part mettre un coup de projecteur puisqu'il me semble qu'elle est elle est majeure et elle est systémique.
Mais le wokisme intervient aussi parce que il s'agit d'une minorité. Donc les prolétaires, si je puis dire, sont une minorité et en ce sens, ils peuvent être comptés parmi les gens qui sont négligés par la majorité.
Alors moi c'est vrai que j'ai utilisé le mot prolophobie, mais en réalité, dans mon livre, je considère qu'il y a d'un côté les élites qui sont en fait la bourgeoisie,
oui,
qui habite dans les centres-villes cosmopolites et diplômés, et de l'autre côté, le reste des Français et ceux qui justement subissent la prolophobie. Ce n'est pas nécessairement les représentants uniquement du prolétariat ou des classes les plus défavorisées, mais c'est finalement tous les autres Français. Donc on retrouve aussi les Français des couches moyennes qui d'ailleurs connaissent un déclin aussi de leur pouvoir d'achat, de leurs conditions de vie, qui fait qu'elles se sentent solidaires des couches sociales plus défavorisées qu'elles.
Oui, et pourquoi le mépris social est-il considéré souvent comme moins grave que d'autres formes de mépris ?
Ah ben ça, c'est amusant que vous posiez cette question parce que précisément, les mêmes phénomènes s'observent tout à fait en miroir aux États-Unis. Et il y a une juriste américaine qui s'appelle Joanne Williams, je la cite dans mon livre d'ailleurs, qui avait donné un entretien récemment à l'Express en France et qui avait dit « Le mépris social est le seul préjugé socialement acceptable ». Et c'est vraiment intéressant de voir que y a tout un tas d'interdits qui font que, évidemment, et tant mieux d'ailleurs, on ne se vante pas de propos racistes ou de visions racistes ou de visions misogynes. En revanche, en ce qui concerne le mépris social, on peut se le permettre. Et je pense que ce qui cache cela, aujourd'hui, vraiment, la distinction se fait entre les milieux diplômés et les milieux non diplômés. C'est vraiment aujourd'hui, je pense, la principale ligne de fracture. Et peut-être que le mépris social, en fait, est un mépris de nature socio-éducative, finalement. Il y a les élites diplômées qui pensent détenir l'entièreté du capital intellectuel et culturel, qui, finalement, ont un regard condescendant à l'encontre des autres, qui n'auraient pas forcément ce même capital.
Oui, et alors comment, parce que vous leur consacrez une grande partie du volume, sans vraiment les analyser, mais comment les immigrés, les Noirs en particulier, sont-ils considérés comme moins valables que la majorité des gens cultivés?
En fait, ce qui est un peu complexe, c'est que aujourd'hui, on utilise le terme populaire. Par exemple, on dit les quartiers populaires. Et en fait, en réalité, à partir du moment où on emploie ce mot-là, il faut savoir que il y a une sorte d'arnaque un petit peu. En fait, quand on dit les quartiers populaires, il s'agit en fait des quartiers à forte composante d'immigration. Et quand on va s'intéresser aux politiques qui sont menées vis-à-vis des Français qui ne font pas partie des élites, on va dire, mais regardez, c'est formidable, la politique de la ville, la politique des quartiers prioritaires, il y a énormément de transferts vers les quartiers populaires, mais en réalité, ne pas faire la distinction entre les quartiers à forte composante d'immigration et la France périphérique, c'est un petit peu embrouiller le sujet. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts, beaucoup de subventions sont consacrées aux personnes et aux quartiers à forte composante d'immigration, pendant qu'on délaisse et même peut-être qu'on abandonne une énorme partie de la France qui se vide de ses services publics, de ses écoles, de ses relais de proximité et même de ses petits commerces. Et pour ces personnes-là, on n'entend pas leur voix. Les médias ne se font pas le relais de ces personnes-là. Et donc, elles sont bien obligées d'aller de temps en temps se manifester, comme ça a été le cas pour les Gilets jaunes ou lors des manifestations des agriculteurs, puisqu'elles ont l'impression, elles ont raison d'avoir cette impression, d'être un petit peu mises de côté.
Mais dans les quartiers populaires, dans les quartiers à forte densité immigrée, ils se plaignent aussi de ne pas avoir tous les services.
Oui, mais en réalité, aujourd'hui, quand on regarde vraiment de manière objective, c'est vraiment pas le cas. Il y a énormément de... Alors, je pense par exemple au sujet de l'école. Aujourd'hui, tous les classements montrent que le système scolaire français est en grande difficulté et le niveau scolaire des élèves baisse partout. Mais ce qu'il faudrait regarder, c'est les moyens, enfin, qui sont, au regard de ces résultats, les moyens qui sont consacrés aux écoles. Vous avez dans les quartiers prioritaires de la ville, vous avez des réglementations qui font que le nombre d'élèves est limité par classe à 15 ou 16, des moyens considérables qui sont versés chaque année. Vous n'avez pas du tout la même chose dans la France périphérique, qui, au contraire, voit chaque jour des nouvelles écoles, des écoles se fermer. Donc, si vous voulez, vous avez une espèce de déséquilibre assez incroyable. Sous le terme populaire, en fait, vous avez deux réalités différentes. Et les politiques se targuent de faire des efforts envers les classes populaires. Mais en réalité, c'est toujours envers un certain type de classe populaire et pas le français ordinaire qui est finalement la majorité silencieuse.
Et pensez-vous que les réseaux sociaux ont donné une voix au peuple ou plutôt créé une nouvelle aristocratie numérique ?
Alors, en effet, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux représentent une forme de contre-pouvoir, finalement. Un récit alternatif au récit narratif officiel, qui est celui qui est dispensé par la plupart des médias et puis la classe politique en général. Et ces réseaux sociaux, combine, bon, comme souvent d'ailleurs, à la fois le meilleur et le pire. C'est-à-dire qu'on y trouve des interventions de grande qualité, et puis parfois, ça ressemble un petit peu plus à un café du commerce où tout le monde raconte, donne son avis dans tous les sens. Ou bien, pire, parfois, ça peut être un véritable déversoir à injures et assez bas de gamme. Mais il me semble malgré tout qu'aujourd'hui, il joue un rôle plutôt salutaire en offrant en représentant un contre-pouvoir par rapport à une caste qui règne en maître dans les milieux journalistiques et politiques et même culturels.
Et alors, vous décrivez une France périphérique invisibilisée. Est-ce une question de géographie ou désormais une question de mode de vie ?
Ah, mais c'est très intéressant cette question-là. Moi, je me suis posé la question de quel est l'œuf ou la poule finalement. Est-ce que il y a d'abord un fossé culturel et éducatif qui s'est creusé, ou bien c'était une séparation géographique. Je pense que le principe, c'est la séparation géographique. Dans les grandes villes, comme en particulier à Paris, mais c'est vrai aussi dans d'autres grandes villes, à partir des années 80, la politique a souhaité faire prendre à la ville le tournant de la modernité en consacrant la création de valeur, enfin en tout cas en la concentrant sur le secteur tertiaire. Et de fait, elle a petit à petit, très volontairement, écarté les artisans, les ouvriers et toute une France qui travaillait dans le secteur secondaire et de la production. Et en faisant ça, elle a mécaniquement créé un éloignement géographique de ces personnes-là qui se sont retrouvées, donc, qui n'habitaient plus en centre-ville, qui ne travaillaient plus en centre-ville. Et ont suivi, je dirais que mécaniquement, les prix des loyers se sont mis également à augmenter à partir de ce moment-là, jusqu'à atteindre des proportions aujourd'hui considérables, qui représentent de toute manière une barrière à l'entrée pour une immense majorité de la population. Or, il y a le système des habitations à loyer modéré, mais il y a un rapport qui est sorti assez récemment, je ne me souviens plus exactement qui l'a produit, mais qui montre qu'aujourd'hui, il y a un système de préemption de ces logements, soit par une forme de copinage avec les élus locaux, soit les logements sociaux sont ciblés vers les populations immigrées, et en particulier les plus récemment arrivées. Donc, le français ordinaire ne peut plus se loger dans les centres-villes. Et de là se crée un fossé de compréhension, un fossé aussi de civique. Si vous voulez, il y a plus l'amitié civique, la philia vantée par les Grecs, elle n'existe plus, puisque il y a plus le corps du peuple, en fait. Il y a vraiment une séparation physique et puis après culturelle, sociale, et on ne se parle plus, on ne se comprend plus.
Mais quel était l'objectif poursuivi par les élites, enfin par ceux qui ont imaginé cette ségrégation ?
Il y avait cette idée que la modernité, c'était le secteur tertiaire, en fait. Ça a été poussé au paroxysme avec le traité de Lisbonne, dans lequel on a décidé petit à petit de déléguer toute la production aux pays d'Asie du Sud-Est. On s'est dit, nous allons garder la production intellectuelle, finalement, et puis de services en général. Et tout le secteur agricole, enfin le secteur primaire et le secteur secondaire, on va le confier à d'autres pays, et d'ailleurs c'est bien pour ça que le nombre d'agriculteurs a fondu comme neige au soleil, parce qu'on a considéré qu'on allait devenir en fait un pays de consommateurs et non plus un pays de producteurs.
Oui, vous intégrez les élites, excusez-moi, vous critiquez les élites. Toutes les élites lisent davantage d'essais que les classes populaires, oui. Écrivez-vous contre elles ou pour essayer de les convaincre ?
Alors, j'aimerais les convaincre. C'est-à-dire que mon essai est entre le cri d'alarme et le coup de poing. C'est-à-dire que c'est peut-être un vœu pieux, mais j'aimerais peut-être en montrant de manière assez imagé, en prenant des exemples concrets du mépris de classe, oui. Leur faire sauter aux yeux finalement, parce que je pense que pour une immense partie de la bourgeoisie des centres-villes, ce mépris de classe n'est pas pratiqué délibérément. C'est oui. devenu une sorte d'air ambiant, de façon d'être,
oui.
Qui n'est pas conscientisée, qui n'est pas volontaire, il n'y a pas vraiment de volonté de nuisance, je ne pense pas en tout cas chez une majorité de personnes, et peut-être qu'en montrant finalement les répercussions concrètes, la représentation symbolique dans les productions culturelles, dans les médias, peut-être qu'elle, j'aspire en tout cas à ce que les élites, dont d'ailleurs je ne peux pas nier faire également partie, se rendent compte de cela et adaptent un comportement plus... comment dire, accorde davantage d'importance au peuple français et soit plus et plus de sympathie pour lui.
Et est-ce que vous êtes surprise à avoir des pensées prolophobes?
Alors, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que je pense que ça a toujours été comme ça. Depuis que le monde est monde, enfin, on est tous dans des classes sociales et les classes sociales entre elles. Je dis toujours, on est toujours le plouc de quelqu'un, en fait. Donc, chaque classe sociale aspire à se différencier de la classe qu'elle juge en dessous d'elle. Et nécessairement, quand on appartient à une certaine forme de bourgeoisie, on peut avoir cette tentation de tenir des propos comme... on n'a pas élevé les cochons ensemble, ou des choses comme ça. Et puis d'aspirer à un certain mode de vie et certains goûts qui, effectivement, ne sont pas forcément ceux de toute la France. Mais je pense que ce qui est important, c'est que ce n'est pas tant de niveler les différences et de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune distinction de classe. Je ne suis pas certaine que ce soit forcément une bonne chose. En revanche...
D'abord, ce n'est pas très réaliste.
Ce n'est pas très réaliste, exactement. Et je ne suis même pas sûre que ce soit si bien que ça, en réalité. Mais je m'intéresse beaucoup aux écrits et à la pensée de l'historien Pierre Vermeeren. Et il fait la différence entre la bourgeoisie traditionnelle, qui était celle qui existait encore en France jusque dans les années... 60-70, et puis la néo-bourgeoisie libérale, celle qui aujourd'hui peuple précisément les centres-villes. Il me semble que dans la bourgeoisie traditionnelle, il y avait la conscience d'appartenir à une classe privilégiée, elle existait, mais assortie à cette conscience de classe, il y avait une responsabilité de classe, et la conscience de cette responsabilité de classe et de devoir de classe, et notamment... le souci du peuple français, le souci peut-être d'exemplarité, et puis une forme de décence qui faisait que si peut-être on pouvait ressentir en soi des mauvais penchants prolophobes, eh bien au moins ils étaient retenus par une décence, en fait.
Oui, oui.
Et aujourd'hui on a l'impression que cette décence, et d'ailleurs je dirais même plus généralement la décence, a volé en éclats. Aujourd'hui, on ne se retient plus.
Oui, mais parce que aujourd'hui, ce que vous appelez la décence, ça s'appelle l'hypocrisie. Et on dit que ces classes-là étaient hypocrites, alors que la personne qui méprise son voisin ouvertement, on dit que c'est quelqu'un de très naturel, en fait, très spontané. Et alors, vous dites que cette mentalité a changé aux années 60-70. Bah, quelle est la date clé là?
Écoutez, je pense qu'on entend souvent ça et je ne veux pas être complètement obsessionnelle sur mai 68, mais je pense que clairement il y a quand même eu un tournant à ce moment-là avec une jeunesse qui aspirait à une libération des mœurs, etc. Et qui a décidé que le passé n'était plus son code. Donc on volait en éclats finalement le respect, enfin énormément de codes sociaux et de normes sociales en vigueur, et notamment le respect des aînés. Finalement, le message était le libre épanouissement de ses désirs individuels, et rien ne devait les entraver. Et donc, effectivement... Quand on laisse libre cours à toutes ces pulsions, il y a des pulsions bonnes et des pulsions moins bonnes, et notamment le mépris. S'il n'y a rien en fait pour endiguer les mauvais penchants, eh bien ils s'épanouissent assez librement. Et je pense que l'indécence en est un.
Très bien. Alors puisque vous avez parlé de 68, on va passer une chanson de 68.
Nous allons passer une chanson de Joe Dassin et on va siffler sur la colline.
Eh bien, d'accord. Joe Dassin. Ah. C'est, je voulais passer une chanson de Joe Dassin. Patientons deux minutes.
Ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier. Et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous revoilà pour le Libre Journal de la France Fidèle, émission réalisée en direct par Philippe Richard, accompagné du modeste Cyprien. Nous avons la chance d'avoir dans notre studio une consultante en communication, essayiste de surcroît, qui depuis peu fait l'unanimité autour de son nom dès qu'on parle de prolophobie. J'ai nommé Diane de Bourguédon, dont l'étude intitulée « Les indésirables » est parue il y a 2 mois aux éditions Fayard dans la collection Pensée Libre.
Alors, Diane de Bourguédon, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut être très diplômé et profondément populaire?
C'est effectivement une assez bonne question. Je pense que la question est celle du souci, en fait, de la communauté nationale, en fait, de la chose publique. Est-ce que le fait d'appartenir finalement à une certaine élite rimerait forcément avec le fait de ne fonctionner que selon les intérêts de cette classe sociale? Et j'espère que non, je ne crois pas en tout cas. Je pense que aujourd'hui la classe politique devrait remettre au cœur de ses préoccupations le bien commun. Elle devrait le mettre avant toute chose. Et le bien commun, c'est pas le bien commun d'un entre-soi, c'est le bien commun de tous les Français, et c'est ce qui permettrait de continuer à écrire un destin commun et d'offrir une continuité à tout le monde. Donc je pense que oui, même si aujourd'hui je dois reconnaître que ce n'est pas représentatif de la classe politique actuelle.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu ce qui s'est passé à la Révolution? Les classes dirigeantes étaient censées donner l'exemple, être soucieuses du bien public, et ne l'ont pas été assez, peut-être. Et c'est peut-être pour ça que la population, enfin une partie de la population, s'est révoltée. Peut-être parce qu'elle n'obtenait pas des classes dirigeantes tout le soutien et la solidarité qu'elle espérait.
Souvent, et c'est très frappant pendant la Révolution française, et ça l'est aussi pendant mai 68, la classe dirigeante, les intellectuels en tout cas, qui sont à l'avant-garde de ces grands mouvements de révolution, ont certaines aspirations sociétales, beaucoup de tabula rasa d'ailleurs, et se trouvent un petit peu dépités que le peuple ne d'adhère pas avec enthousiasme avec ces évolutions à marche forcée. Et souvent, il arrive, et c'est arrivé donc pendant la Révolution française et en mai 68, que il laisse tomber finalement le peuple, déçu que celui-ci ne soit pas aussi révolutionnaire que les élites. Finalement, les élites abandonnent le peuple. Et en 68, c'est vraiment ce qui s'est passé aussi. Les étudiants avaient un rêve progressiste justement de d'émancipation, et la classe ouvrière ne partageait pas les mêmes rêves. Elle avait des préoccupations plus d'ordre socio-économique. Et à ce moment-là, la gauche culturelle a décidé de rompre, en fait, rompre complètement. Et c'est à ce moment-là qu'elle a petit à petit abandonné le prolétariat pour arriver, en fait, à la situation actuelle où la gauche ne s'en préoccupe plus du tout.
Oui, mais à l'époque, dans les années 70, les immigrés n'étaient pas assez nombreux pour fournir des bataillons de substitution.
Oui, alors c'est pour ça que... le programme, par exemple, de François Mitterrand avait encore de fortes dimensions socio-économiques.
Oui.
Donc, mais si vous voulez, sur le plan, en tout cas, culturel, c'est à ce moment-là, dans les années 70, qui est apparu sous le coup de crayon talentueux, d'ailleurs, de Cabu, le personnage du beauf. Il l'a inventé au tout début des années 70. C'est à partir de ce moment-là que, dans la représentation symbolique et culturelle, le français issu des couches populaires et prolétaires est devenu un anti-modèle, en tout cas, est devenu un personnage peu fréquentable, qu'on pouvait moquer.
Repoussoir.
Mais la politique, en tout cas les programmes menés par les socialistes, s'adressaient encore, jusque dans les années 80, s'adressaient encore à cette population. Il a fallu, en fait, qu'il y ait le regroupement familial qui a fait donc qui a occasionné finalement une immigration de masse, une immigration de peuplement. Et à partir de ce moment-là, il y a eu l'émergence d'un potentiel nouvel électorat. Et c'est à cet électorat qu'aujourd'hui la gauche s'adresse, en particulier, je dirais, l'extrême gauche de la France insoumise.
Ah oui, c'est très clair. Je crois que nous avons reçu une question. Elle n'est pas tout à fait au cœur de notre sujet, mais...
Voilà, une question d'un auditeur qui nous demande s'il n'est pas possible que la France périphérique soit aussi aujourd'hui devenue une France en partie constituée d'immigrés.
Alors, il est certain que quand on fait des études de nature sociologique, on a tendance à faire des raccourcis et à établir des regroupements, et forcément, cela efface la nuance et conduit à certaines approximations. Aujourd'hui, bien évidemment qu'il y a... Les groupes ne sont pas... et même la répartition géographique des groupes sociaux n'est pas... c'est pas une discipline scientifique. Donc, il y a quand même, évidemment... en fait, on réfléchit toujours en grande masse. Dans les centres-villes, dans les centres-villes des grandes agglomérations, on a une bourgeoisie diplômée, cosmopolite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument personne d'autre et aucun autre profil. Il y a d'autres représentants. Dans l'immédiate périphérie de ces centres-villes, c'est là où se trouve la plus forte concentration aujourd'hui d'immigration. Et bon, ça, il suffit de consulter les chiffres pour le savoir. Mais bien évidemment que dans le reste de la France, c'est-à-dire la France qui n'est pas celle des grandes agglomérations, il y a principalement, je dirais, ce qu'on appelle classiquement des Français de souche, de classe moyenne et classe populaire, mais bien entendu également des représentants de l'immigration et quelques représentants cadres sup perdus un petit peu au milieu. Mais il y a bien évidemment un minimum de mixité sociale. Mais si on réfléchit effectivement en termes de grande masse, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a trois lieux géographiques: les centres-villes des grandes agglomérations, les périphéries immédiates et la France périphérique telle que l'a décrite Christophe Guilluy.
Très bien. Est-ce que tu avais d'autres questions à poser? Je sais que tu avais préparé quelques questions. Fernand.
Vous me prenez de court. Alors, c'est dans cette fracture territoriale entre France des centres-villes et France périphérique, est-ce que vous pensez que cette fracture est réversible, ou où on est face à des zones qui s'écarteront de plus en plus et s'homogénéiseront chacune l'une l'autre.
Alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le phénomène d'exode rural qui a commencé il y a bien longtemps, puisqu'il avait commencé déjà au 19e siècle, il a atteint peut-être un petit peu son paroxysme. Mais on pourrait s'imaginer que les choses pourraient prendre un cours complètement inverse. Déjà, il faut savoir qu'une ville comme Paris, depuis l'arrivée d'Anne Hidalgo, a perdu plusieurs centaines de milliers d'habitants. Donc il y a un certain nombre
donc
de...
Donc ça
oui, oui.
Plusieurs centaines de milliers
oui.
Ah bon.
Plus de 100 000. Donc il y a un phénomène, il y a certaines familles qui se mettent à quitter les centres-villes pour tout un tas de raisons, dont la première assez évidente est le prix du logement. Donc on pourrait imaginer que de plus en plus de familles pourraient le faire. J'imagine qu'elles le font aussi pour les problèmes qui sont liés à l'insécurité, parce que personne n'a envie d'avoir ses enfants qui risquent quoi que ce soit. Et je ne parle même pas des récents scandales du périscolaire hein, qui donneraient envie de partir en courant. En tout cas, si j'avais des enfants en bas âge, ce serait le cas. Il y a effectivement des urbains qui deviennent des néo-ruraux. Et là, c'est plus en forme de point d'interrogation. Que va donner l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre monde actuel ? Il est aujourd'hui, on entend souvent les spécialistes de l'intelligence artificielle dire que les métiers qui seront les plus touchés sont les métiers des professions dites intellectuellement supérieures, donc les cadres, les professions libérales. Ce sont précisément ces personnes qui habitent dans les centres-villes privilégiés. Les prédictions des spécialistes sont avérées, il va y avoir un chômage massif dans ces classes sociales-là. Et qui sait, peut-être que cela pourra conduire à complètement redéfinir l'organisation, le paysage et à recréer des liens de solidarité entre les différentes couches du peuple français.
Et alors, les couches supérieures pourraient rétrograder, par exemple ?
Bah, si vous voulez, elles
devraient se méfier.
Elles vont être confrontées aujourd'hui. Si vous voulez, il y a vraiment les gagnants de la mondialisation et les perdants de la mondialisation. Aujourd'hui, les cadres et les élites diplômées font partie des gagnants de la mondialisation. Donc, quand elles regardent des reportages où on leur montre une dame, je pense notamment à un reportage qui avait été fait pour CNews, une dame qui n'arrive pas à payer son plein d'essence, qui est obligée de demander une avance à son patron pour payer son simple plein d'essence pour se rendre à son travail. Les élites des centres-villes n'ont aucune idée de cela. Elles ne se représentent pas. En fait, elles ne savent pas ce que c'est que les difficultés de fin de mois. Mais si jamais elles sont touchées en partie par le chômage, notamment en raison de l'intelligence artificielle, il est bien possible que les cartes soient rebattues.
Mais les milieux très cultivés seront un peu épargnés quand même.
Je n'en suis pas sûre.
Ah bon ?
Je n'en suis pas sûre. En fait, je pense que, si vous voulez, c'est pas en termes de... Ça ne veut pas dire qu'il y aura des secteurs entiers qui seront pilotés par des intelligences artificielles et des robots. C'est simplement que dans un endroit où vous auriez 100 employés, vous n'en aurez plus que 10.
Oui, c'est ça.
Ça va réduire de 90% les effectifs dans certains domaines.
Oui.
Ça
ne
veut pas dire que c'est partout, mais c'est quand même assez, c'est assez vaste. Hein, je veux dire, dans l'économie tertiaire, en tout cas, et dans tout ce qui est la production intellectuelle, ça risque de faire pas mal de dégâts. Et donc, les élites qui étaient jusque-là du bon côté vont se retrouver mécaniquement, elles vont basculer du mauvais côté, et peut-être que la confrontation avec cette situation, je dirais, un petit peu sinistrée, les fera prendre conscience de ce que c'est que...
Les fins de mois difficiles.
Les fins de mois difficiles, peut-être, je ne sais pas.
Oui, mais alors, quels sont les secteurs qui, eux, seraient valorisés ?
Alors,
l'artisanat.
Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est alors valoriser, c'est-à-dire qu'ils seront percutés de manière différée peut-être. C'est-à-dire, en tout cas, ils ont plus de temps devant eux avant d'être percutés. Avec le développement de la robotique, notamment en Chine, est absolument phénoménal. Donc il y a fort à parier que même les secteurs de l'industrie et de l'artisanat vont être touchés aussi, mais disons que ça mettra plus de temps. L'agriculture, je pense...
Quels sont les secteurs qui vont survivre ?
À la fin des courses, alors ça c'est un débat philosophique.
C'est la fin du travail.
c'est bah, pour beaucoup, en tout cas, bien sûr, oui, pour beaucoup. Je pense qu'une énorme partie de la population va se retrouver sans travail, avec toutes les questions philosophiques qui en découlent.
Oui, et alors le paysage urbain ou rural va complètement changer.
Complètement. Bah, il n'y aura plus vraiment, si vous voulez, aujourd'hui, l'essentiel du PIB de la France est produit dans le secteur tertiaire, qui se trouve lui-même produit dans des bureaux qui se trouvent dans des centres-villes. Déjà, avec la crise sanitaire, les bureaux se sont vidés et on a instauré donc le télétravail. Si demain, 90% des cadres, j'exagère, je pense que je suis un peu excessive, 75% des cadres perdent leur travail, les bureaux des centres-villes n'ont plus de raison d'être. Donc, si vous voulez, quel est l'intérêt de rester à ce moment-là dans ce cas, on peut vraiment aller partir vivre dans un endroit plus verdoyant et où il y a plus de sécurité.
Ah oui, vous nous dessinez là un avenir assez apocalyptique. Et,
ou pas.
Oui, pourquoi ou pas?
Bah, si vous voulez, moi j'avais lu un livre de David Graeber qui s'appelle Bullshit Jobs, qui décrivait qu'il y avait un nombre considérable de personnes qui travaillaient de nos jours dans des emplois dont eux-mêmes ne voyaient pas vraiment l'intérêt et l'utilité et passaient leur journée à se demander ce qu'ils faisaient là. Peut-être que l'intelligence artificielle sonnera la fin de ces bullshit jobs et de ces questionnements et occasionnera, je ne sais pas, un retour à la nature et en tout cas peut-être qu'un exode non pas rural mais urbain cette fois-ci où des personnes quitteront les grandes villes.
Oui. Je ne suis pas tout à fait convaincu, mais enfin c'est logique en suivant votre raisonnement. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il existe dans les classes populaires un sentiment qui serait qu'on pourrait appeler la bourgeoisophobie?
Oui, je pense assurément. C'est-à-dire que quand vous avez un mépris qui est exercé de manière continuelle et de manière de plus en plus ostensible, et notamment je pense aux prises de parole de nombreuses personnalités politiques qui parlent donc dans l'espace public et qui se permettent d'avoir des expressions méprisantes du matin au soir, si vous voulez, ça ne peut pas être neutre, ça ne peut pas être sans conséquences. Et donc l'effet boomerang de ce mépris de classe qui est déversé je dirais quasiment à longueur de journée, c'est que se développe au sein des Français qui n'ont pas l'heure d'appartenir aux élites un fort mécontentement et qui peut parfois prendre les atours de la haine, je pense, oui.
Mais on les trouve bien, bien patients, en tout cas, c'est les gens qui sont méprisés.
Ah bah, en fait, ils n'étaient pas très patients en 2018, au moment des Gilets jaunes, mais si vous voulez, ils se sont fait tellement matraquer et éborgnés par des tirs de LBD que je pense que ça a très fortement calmé leurs ardeurs. En tout cas, enfin, temporairement, ça a calmé leurs ardeurs. Mais à force de remettre le couvercle sur la cocotte minute, il est fort à parier que de nouveau, ça explosera un jour, c'est certain. Mais en tout cas, ce qui est assez étonnant, c'est que ce qui avait occasionné le démarrage des Gilets jaunes, c'était l'augmentation des prix à la pompe. C'était ça qui était vraiment le phénomène. Et aujourd'hui, avec la guerre en Iran, le prix de l'essence a flambé bien plus qu'il ne l'avait fait au moment des Gilets jaunes. Et on n'a pas vu de grands mouvements. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une petite anesthésie, si vous voulez. Vous savez, quand vous recevez un coup, tout de suite après, la zone frappée, elle est un peu anesthésiée.
Oui.
Donc là, les tirs de LBD et les tasers, etc., ont laissé des séquelles, mais ça ne durera pas éternellement.
Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, les gens ont tellement perdu le sens de la solidarité qu'ils se disent « chacun pour soi » et « je vais me débrouiller avec les règles qui sont celles du monde actuel » ?
Alors, je pense que ce n'est pas du tout la mentalité qu'il y a aujourd'hui dans la France périphérique, qui est au contraire, à mon avis, une mentalité de solidarité et d'entraide. Et je vous renvoie aux derniers ouvrages en tout cas de Christophe Guilluy qui parle énormément de ça en fait, qui parle des liens, de ce que je disais, de l'entraide, de la solidarité, puisqu'en fait, comme les personnes qui habitent dans la France périphérique savent qu'elles ne peuvent plus compter sur l'État, elles ont compris hein, ça. De toute façon, elles ont même plus accès à tout un tas de services publics, et donc c'est la débrouille et l'entraide. Et puis, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, si vous voulez, les personnes venaient se serrer les coudes autour de bras zéro au niveau des ronds-points.
Oui.
Il y a, je pense, vraiment une forme de solidarité dans la France périphérique qu'il n'y a plus du tout, en revanche, dans les centres-villes, qui favorisent des comportements très, très individualistes.
Oui.
D'ailleurs, c'est assez frappant, je me suis toujours dit ça, mais quand vous pouvez prendre le métro strictement tous les jours à la même heure, vous ne verrez jamais les mêmes personnes. Parce qu'à Paris, par exemple, il y a tellement de monde que, si vous voulez, ça dilue les relations. Vous n'avez pas véritablement de...
Et même quand on rencontre les mêmes personnes, on n'ose pas leur parler.
Voilà, il peut y avoir aussi ça. Mais vous n'avez pas forcément de sentiment de solidarité vis-à-vis de quelqu'un que... Enfin, de personnes que vous croisez toujours, des personnes différentes, si vous voulez. Alors que par contre, quand vous voyez toujours les mêmes personnes, forcément, au bout d'un moment, vous établissez des liens d'amitié ou de sympathie, à tout le moins.
Oui.
Mais quand vous n'avez jamais ça, et qu'en plus, l'ambiance dans les transports en commun n'est pas particulièrement propre à la civilité, ça n'aide pas.
Oui. Une question un peu différente. Quel est, selon vous, le signe ultime de déconnexion des élites ?
Pour moi, je dirais que c'est... Je citerai une phrase d'Emmanuel Macron datant de l'été dernier, qui avait dit, pendant que certains préfèrent brainwasher sur les faits divers et l'insécurité, on oublie de se préoccuper de la préservation des océans. Je crois que quand on interroge des personnes dans les dîners mondains, dans les grandes villes, et qu'on leur on parle un petit peu de quels sont les problèmes aujourd'hui dans le monde, assez rapidement, c'est le sujet de l'écologie qui vient de la préservation de l'environnement, qui apparaît sur le devant qui apparaît dans les propos en premier, et n'apparaît jamais le sujet de l'insécurité et les questions du pouvoir d'achat. Alors, je dirais, le pouvoir d'achat, c'est sûr, parce qu'elles sont vraiment jamais confrontées à ça. Mais aujourd'hui, la préoccupation écologique a pris une place absolument considérable. Et il n'y a pas que dans les mouvements partisans et chez les activistes qu'on peut dire que c'est devenu quasiment une nouvelle religion. Je veux dire, c'est devenu une nouvelle religion, y compris au sein des élites, qui finalement se rachètent une forme de conscience en se disant que c'est leur manière à elles de penser lutter, en tout cas, contre le capitalisme. Enfin, elles ont l'impression de lutter contre le capitalisme en ayant des revendications écologiques.
De charité.
Ça m'avait assez frappé aussi. Il y a une influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux qui est assez talentueuse et qui fait beaucoup de décorations. Enfin, elle a un magasin de décoration, elle est très suivie. Et elle n'a de cesse de répéter depuis 10 ans ou je ne sais pas, que son rêve, c'est d'ouvrir un magasin à New York. Elle ne parle que de ça. Et puis, elle parle du jour où, enfin, elle pourra vivre à New York. Et elle répète ça tout le temps. Et personne ne lui dit « Écoutez, c'est très bien votre rêve de New York, mais... vous devriez déjà être contente du succès que vous avez ici en France, de ce que la France vous a donné, et puis des louanges que vous avez tous les jours de la part de Françaises qui vous admirent. Mais ça, on a l'impression que c'est pas si important que ça. Et le seul reproche qu'elle a eu, ça n'a jamais été de faire preuve de peut-être d'un manque de reconnaissance vis-à-vis de la France, un manque de gratitude. Ça n'a jamais été de ce ressort-là. Le reproche qu'elle a eu, c'était avec vos projets de vouloir vous établir à New York, je constate que vous prenez quand même beaucoup l'avion, donc vous avez quand même un bilan carbone vraiment qui est pas à votre honneur. Donc on lui a reproché son bilan carbone. En revanche, une forme d'infidélité patriotique. Alors là, ça n'a vraiment traversé l'esprit de personne.
Mais justement, cette infidélité patriotique, elle est liée, tout est lié de toute façon. Là. Est-ce que l'éducation, la famille, la patrie, tous ces concepts, toutes ces réalités qui sont en pleine déréliction, est-ce que justement leur abandon ne relève pas des mêmes causes ?
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est-à-dire que ça a commencé au moment de la Révolution française, mais ça s'est accentué considérablement en mai 68. tout ce qui peut être vu comme une entrave au libre épanouissement des libertés individuelles est considéré comme mauvais et à bannir. Donc toute forme d'enracinement est vue comme une entrave absolument insupportable et un emprisonnement. Et donc il faut que l'individu soit absolument délié de tout finalement. Mmh. Donc il est délié du lien avec sa famille, il est délié de l'attachement, si vous voulez, à la terre. Mmh. Il est délié. Moi, j'ai été assez frappée aussi dans le cadre de mes activités professionnelles. À un moment, je travaillais pour un grand groupe américain et on pouvait. C'était assez, d'ailleurs. Assez fascinant, on pouvait prendre rendez-vous avec un outil en ligne. On pouvait réserver une salle de réunion à Melbourne ou à Los Angeles ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'était tout ça en ligne très facilement. Et je me disais, donc, quand on avait des déplacements comme ça à l'étranger, si par malheur, quelqu'un avait osé émettre le fait qu'il avait eu, par exemple, le mal du pays, en arrivant, je ne sais pas, à Singapour ou n'importe où, il aurait été vraiment perçu comme un arriéré complètement nauséabond et préhistorique, quasiment. Donc, le lien, en fait, à son... L'attachement à sa terre, le lien avec la famille, le lien avec la patrie, aujourd'hui, sont davantage conçus comme des entraves dont il faut absolument se libérer que comme des liens porteuses de richesse et d'épanouissement.
Mais alors c'est une société de gens qui se contrôlent, qui se contraignent, parce que tout le monde a une famille, tout le monde a un terroir d'origine, tout le monde aurait de bonnes raisons d'avoir le mal du pays, le mal de sa famille.
Oui, mais si vous voulez, vous avez un conditionnement psychologique qui fait que vous vous empêchez de penser ça. C'est-à-dire que y a une interdiction, il y a une injonction, si vous voulez, morale, oui, qui fait que l'enracinement, c'est mauvais. Et alors surtout aussi, ce qui est frappant, c'est, parce que bientôt, je pense que ce sera complètement criminalisé, c'est la nostalgie. L'attachement, si vous voulez, au passé, l'attachement à ce qui fut et qui n'est plus. Je pense que bientôt, il y aura un délit de nostalgie. On dira, vous avez fait un délit, vous avez dit que la France d'avant était plus belle. Bam, je pense qu'on sera puni. Ça aussi, il y a une injonction à... c'est très mal vu dans la bourgeoisie d'avoir des pensées nostalgiques. C'est très mal vu. C'est vu comme passéiste. Il faut toujours se projeter dans l'avenir, toujours dire que aujourd'hui est mieux qu'hier et que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Si vous voulez, c'est conçu comme... c'est perçu comme étant de l'ordre de la nécessité.
Oui.
Ce sera forcément mieux. Et d'ailleurs, le passé, quand même, c'était un petit peu nauséabond. Et je trouve que, si vous voulez, il y a une forme d'interdiction de l'enracinement. Puis, vous savez, il y a aussi une interdiction, par exemple, des stéréotypes de genre. Ça, aujourd'hui, c'est très mal vu, par exemple, pour une femme de dire moi, j'éprouve une certaine joie à m'occuper de mon foyer. Mmh. C'est très mal vu, ça. En tout cas, dans certaines classes très diplômées, c'est mal vu. Et d'ailleurs, il y avait même des... Je me souviens des aveux d'une journaliste qui disait c'est affreux, je m'y reprends, je me surprends moi-même chez moi à ramasser le linge sale et à faire les machines et à faire en sorte que mon intérieur soit confortable. C'est vraiment lamentable que je me laisse aller à ça et j'essaie de lutter contre cette tendance que j'ai de pas me laisser aller dans cette envie d'avoir un cocon agréable.
Non, mais ah oui.
Si vous voulez, c'est à ce niveau-là. Donc, vous avez des conflits dans la tête de ces personnes-là. Je pense que ça doit être assez douloureux, d'ailleurs. Mais il y a vraiment tout un tas d'interdictions aujourd'hui par rapport à d'anciens attachements ou d'anciennes traditions.
Ah, mais c'est une vision de cauchemar, là, la vie de ces gens. Parce que finalement, c'est une vie qui n'est pas très libre. Ils sont très conditionnés. Et il correspondait à des schémas aussi.
Entièrement.
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 Oh,
et,
merci beaucoup.
Et je pense que... mais on n'a pas le droit de le dire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des tabous qui règnent sur ces sujets. On n'a pas le droit de dire que ce sont des schémas qui s'imposent. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je pense qu'aujourd'hui, énormément de familles explosent. En partie à cause de ça, si vous voulez, en partie de toutes ces injonctions contradictoires qui se, qui se, qui se retrouvent dans le, chez les familles, chez les parents, mmh. et ça conduit finalement à l'explosion de beaucoup de familles, je pense.
Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se disent que, étant donné la longévité, maintenant, ils auront une existence en deux parties, une partie comme celle que les élites encouragent, et puis une partie plus rustique, plus campagnarde, avec retour à certaines valeurs, quand ils seront plus âgés?
Je ne sais pas, j'ai pas forcément entendu ça, mais en tout cas, il est possible que ce soit le cas. Ce que je trouve, en revanche, dommage, si vous voulez, c'est que la vie familiale, aujourd'hui, le modèle de la famille traditionnelle soit extrêmement mis à mal par la promotion de l'hédonisme individualiste, et les réseaux sociaux ne font qu'encourager cela, malheureusement. Et d'ailleurs... On parle pas mal du déclin de la natalité, mais il est certain qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux véhiculent dans le monde entier un modèle d'individualisme, d'ailleurs y compris sur le plan matériel, hein, parce que évidemment, on a plus de moyens financiers quand on n'a pas d'enfants que quand on en a beaucoup, forcément. Et vous avez toute la mouvance qu'on appelle No Kids, qui consiste à dire, finalement, je vis ma meilleure vie, comme ils disent aujourd'hui, en n'ayant pas d'enfants, et je profite à fond, et j'ai un plus gros patrimoine financier. Donc je pense que c'est assez terrible.
Bon, eh bien, pour nous faire passer cette mauvaise humeur, nous allons écouter
Françoise Hardy.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez le Libre Journal de la France Fidèle, émission du 23 mai, réalisée en direct, présentée par Philippe Richard, accompagné de votre serviteur, le modeste Félicien. Nous avons la chance d'avoir dans notre studio une consultante en communication, essayiste de surcroît, qui depuis peu fait l'unanimité autour de son nom dès qu'on parle de prolophobie. J'ai nommé Diane de Bourguédon, dont l'étude intitulée « Les indésirables » est parue il y a 2 mois aux éditions Fayard dans la collection Pensée libre.
Alors, des questions nous ont été posées par des auditeurs.
Oui, nous avons beaucoup d'auditeurs qui nous posent des questions. Première question, L'abrutissement des masses populaires que je constate au quotidien n'est-il pas dû au niveau des programmes télévisuels déversés à longueur de journée? On se rappelle la teneur des émissions télévisées d'il y a 50 ans, avec Au Théâtre ce soir, Les Vidocs, Les Brigades du Tigre, etc. Habiter dans un village ou une petite ville, c'est souvent côtoyer des cas sociaux, des îlots modernes, et l'on regrette le temps où l'on trouvait dans les trous de campagne des abbés érudits, des sociétés savantes et des instituteurs amateurs d'histoire ou de botanique. Pardonnez mon pessimisme.
Alors effectivement...
c'est pas de point d'interrogation.
C'est assez radical. Le niveau d'érudition, en réalité, il faut quand même dire qu'il a baissé partout. Alors c'est sûr que ça n'a pas forcément les mêmes conséquences selon le niveau de départ. Hein. Forcément, la baisse a des conséquences peut-être moins dramatiques. Mais je pense que la télévision, en fait, c'est un des signes d'une tendance plus générale qui touche en particulier l'école, qui est en fait la volonté d'un... Enfin, c'est pas la volonté, il y a un nivellement par le bas qui est en fait le fruit de la volonté des déconstructeurs comme Bourdieu, Derrida et Deleuze, pour ne citer qu'eux, de mettre fin à l'autoreproduction des élites. Donc comme ils se sont rendus compte que l'école ne parvenait pas à complètement compenser les inégalités de capital intellectuel et social qu'il y avait selon les couches sociales, et que cela conduisait à poursuivre les inégalités entre les classes sociales. Ils se sont dit il faut arrêter de transmettre. Il faut arrêter la transmission, il faut arrêter la transmission des savoirs. Il faut faire une école plus égalitaire et avec un moindre niveau d'exigence. Et puis arrêter aussi, la conséquence a été l'arrêt de la méritocratie. Tout ça a fortement tiré vers le bas l'école et de manière bien plus accentuée encore dans la France périphérique que dans les centres-villes. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau... des écoles, beaucoup d'écoles en tout cas, des grandes villes, restent très bons, voire dans certains cas excellents. L'effondrement du niveau scolaire, c'est surtout le cas dans la France périphérique en particulier. Et associé à cette baisse de niveau, si vous voulez, forcément après, les contenus culturels qui sont diffusés à la télévision, si plus personne ne comprend ce que raconte Bernard Pivot dans Apostrophe, vous êtes obligé, vous perdez de l'audimat en fait. Si vous faites des émissions trop érudites, vous perdez de l'audimat parce que ceux qui autrefois, grâce à l'école, avaient accès à un certain niveau de culture générale, vous les avez perdus ces gens-là, ils n'existent plus. Donc le niveau a fortement baissé et par conséquent, les programmes culturels ont été à l'engeance, donc se sont adaptés en fait à l'audimat et c'est pour ça que vous arrivez le niveau est de plus en plus bas et jusqu'à arriver donc à la télé-réalité. Enfin, on n'aurait jamais imaginé, j'imagine, dans les années 60 ou 50 même, qu'on en arriverait à des émissions aussi pauvres hein, sur le plan. Et puis en plus, la télévision autrefois se voyait encore comme un vecteur de pas seulement d'information, mais également d'éducation culturelle. Il y avait cette idée-là. Oui. Aujourd'hui, on est dans le divertissement chimiquement pur. C'est vraiment le pur divertissement. Donc le divertissement n'a pas besoin d'être spécialement érudit. Il suffit de s'affaler dans son canapé et si vous voulez, c'est la consommation de masse hein, d'une certaine manière. Mmh. Voilà.
Une autre question.
Et une autre question que je vous livre. Faisant vous-même partie des élites, c'est tout à votre honneur de critiquer votre milieu. Avez-vous vous-même vécu un déclassement qui vous a confronté à la réalité? Comment en êtes-vous arrivé à ces observations? Comment raisonner les élites? Trois questions pour le prix d'une.
Alors, je n'ai pas subi ce que c'était que le déclassement. Je pense que j'ai été assez frappée quand j'étais... j'ai eu la chance, en fait, très jeune, d'avoir de sympathiser avec une jeune fille, nous avions le même âge d'ailleurs, mais qui venait d'un autre pays, qui était américaine en l'occurrence, et qui était très frappée des mœurs en vigueur dans le milieu. Quand elle venait en France, en fait, elle était très étonnée. Et elle me disait, Mais pourquoi tout le monde est aussi snob ici et pourquoi tout le monde est aussi désagréable, etc. Et spontanément, je lui avais dit, je sais pas, c'est la seule manière d'être, c'est comme ça qu'il faut être. Enfin, vraiment, c'est tellement usuel d'être comme ça. Et peut-être que c'est à cette époque qu'elle m'a aidé à faire un pas de côté. Peut-être que j'ai été capable de prendre de sortir de moi-même, enfin en tout cas de sortir du milieu social dans lequel j'étais pour avoir une posture de un petit peu d'observateur ou en tout cas de sociologue en fait qui regarde les mœurs en vigueur au sein de son propre milieu et peut-être qu'à partir de ce moment-là j'ai un petit peu pris du recul sur la façon dont nous nous comportions.
Ah bon. Alors maintenant. Quel est, d'après vous, le plus grand malentendu entre les élites et les classes populaires ?
Alors, c'est compliqué parce que au sein des élites, il y a des élites de gauche et il y a des élites de droite.
Oui.
Les élites de gauche, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est le même problème que ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Le malentendu, c'est que les classes populaires ne veulent pas forcément un grand soir. Elles ne sont pas spécialement révolutionnaires, en fait. Mmh. Elles aspirent à une forme de dignité dans leur travail, à un pouvoir d'achat qui leur permette de vivre précisément dignement et puis d'offrir un avenir serein à leurs enfants. Mmh. Alors que la gauche, et en particulier la gauche culturelle, a des envies de l'avènement, enfin des envies un petit peu régénératrices. Hein. L'avènement d'une nouvelle société, d'un homme nouveau qui serait libéré de tout péché. Hein. C'est un petit peu eschatologique même. Et cette différence entre les aspirations est à l'origine du malentendu. En revanche, de la part des élites de droite, c'est complètement différent. Je pense que les élites, la bourgeoisie marchande, reprochent aux classes populaires d'être trop gourmandes en matière de droits sociaux. Il y a cette idée que la protection sociale en France est très généreuse, ce qui n'est au demeurant pas tout à fait faux, entrave notre prospérité économique et que donc les Français sont trop gourmands, se plaignent trop, ont trop de desiderata sur le plan social et elles leur en veulent à cause de ça. Alors que de l'autre côté, les Français des classes populaires et des couches moyennes aujourd'hui sont très fortement paupérisés et ce n'est certainement pas aux travailleurs pauvres que la politique de redistribution sociale bénéficie de plus. Oui. C'est vraiment pas le cas. Et d'où, je pense, une incompréhension très importante entre les Français ordinaires et les Français des élites.
Mais les élites qui habitent en centre-ville ne connaissent pas, de toute façon, les difficultés du rural moyen ou du rural modeste.
En fait, je pense qu'elles n'en ont en effet aucune idée.
Oui, tandis qu'elles voient beaucoup de gens qui, effectivement, en ville, ne font pas grand-chose, ou occupent des emplois très subalternes, ou quelquefois des emplois créés artificiellement, et continuent à se plaindre.
Effectivement, je pense qu'elles ont une vision parcellaire et déformée de la réalité, et puis, comme il y a cette ségrégation géographique, elles n'ont pas de discussion, elles ne parlent pas. Vraiment, il y a deux blocs en France aujourd'hui qui ne se parlent pas et qui n'ont absolument pas conscience de ce que peut être la vie des uns comme des autres. Et à certains égards, on a même l'impression que la bourgeoisie des grandes villes, finalement, elle s'en moque un peu de ce qui se passe ailleurs.
Oui, et aussi bien de bourgeoisie de droite que de gauche.
Oui, je pense.
On se souvient de ce qu'avait dit Sarkozy à Philippe de Villiers. Elle disait, oh toi, Philippe, cette aire de campagne, ce clocher, ça te fait vibrer. Moi, ça me laisse totalement indifférent. Et on ne peut pas dire qu'il soit totalement de gauche.
Non, exactement. Non, je pense en effet.
D'après vous, est-ce que la prolophobie est plus française qu'anglo-saxonne ou germanique ?
Alors germanique, j'aurais vraiment du mal à répondre. En revanche, je pense qu'elle est, elle est très anglo-saxonne aussi. En fait, il y a une philosophie très égalitariste aux États-Unis qui conduit à ce que les seuls écarts que l'on puisse prétendre sont des écarts en termes de revenus et de niveau de richesse. Mmh. Et finalement, le fait qu'il y ait en fait, on prétend être tous au même niveau aux États-Unis. On est tous un peu amis les uns les autres. Il n'y a pas de frontières sociales, etc. Mais en revanche, il y en a une qui est majeure. C'est la frontière finalement entre l'argent et de conditions matérielles. Et c'est très très frappant aux États-Unis. Enfin, vous avez vraiment la population qui habite au niveau de la côte est et de la côte ouest qui éprouve. Qui est l'endroit où il y a le plus de richesses, qui méprise les Français, pardon, par les Français, les cols bleus du centre des États-Unis. Et le vice-président J.D. Vance a écrit un livre là-dessus, puisque lui-même vient de ces milieux très, très, très méprisés. C'est très, très présent aux États-Unis. Et comme depuis les années 80, les mentalités françaises s'américanisent extrêmement rapidement. Forcément, ça nous touche aussi et on est imprégné de ça également.
Oui, et pour lutter contre ça, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à une société plus organique où il y a un peu de un notaire ici, un curé là, des paysans, des ouvriers, et où tout le monde a besoin de tout le monde?
Vous avez raison. En fait, avant, il y avait les notables locaux dans toutes les villes qui formaient une petite bourgeoisie locale et qui vivaient au contact de toutes les autres représentants des classes sociales. Et sans heurts, exactement. Et avec du respect mutuel, je pense, une écoute bienveillante. Et le phénomène, en fait, comme on a tué le secteur secondaire et le primaire et secondaire, l'agriculture et l'industrie, cette bourgeoisie-là, elle a déserté en grande partie, pas à 100%, mais en grande partie, elle a déserté la France périphérique. Elle s'est retrouvée donc au sein des grandes villes. Et aujourd'hui, elle n'est plus en contact. Donc, comment faire revenir? Vous savez, vous avez même aujourd'hui, il y a tellement un problème par exemple, de déserts médicaux. Qu'il y a des systèmes d'incitation financière pour des médecins à s'installer dans des petites villes. Mm-hmm. Mais les médecins sont assez réticents à le faire parce qu'ils se disent « Très bien, je vais venir ici avec ma famille, mais quelle vie sociale allons-nous avoir puisque nous serions, si nous étions là-bas, les seuls représentants finalement d'une certaine classe diplômée et nous nous sentirions peut-être un peu seuls ». Il faudrait en fait qu'il y ait des mouvements plus massifs et qu'il y ait à nouveau la création la réappropriation de la France périphérique par une certaine forme de bourgeoisie, oui.
Et est-ce qu'une certaine décentralisation pourrait conduire à ça? Si on mettait un ministère de la culture à Lyon, peut-être pas dans les toutes petites villes, mais dans certaines villes, jusqu'à des villes comme Périgueux, par exemple. Je pense à Périgueux ou Limoges, des villes qui sont un peu en désarroi, enfin, au point de vue du dynamisme. Et est-ce qu'on ne pourrait pas un peu faire ça? Parce que maintenant, la distance n'est pas un obstacle.
En effet, mais je ne pense pas que la volonté politique soit là de le faire, en tout cas. Mais c'est sûr que ce serait... c'est-à-dire que... Il y a le phénomène des grandes agglomérations et le paroxysme de la concentration des pouvoirs, hein, qu'ils soient d'ailleurs de tous les pouvoirs, hein, judiciaires, médiatiques, etc. Le paroxysme, c'est vraiment Paris.
Oui, bien sûr.
Et je dirais que l'endroit où se pratique le plus fréquemment le mépris de classe, c'est assurément la capitale. Mais en effet, oui, ça serait une bonne chose de décentraliser, mais c'est malheureusement pas très... français, je dirais. Il y a quand même une tendance à la centralisation.
Bien sûr, mais ça avait été tenté quand même à certains moments de mettre telle grande école ici. On n'a pas continué. On a continué à centraliser, en fait.
Ah, exactement, à centraliser de plus en plus. Oui, et puis même à vider les territoires des services publics, des services de l'État qui se désengagent de plus en plus. Donc il faudrait vraiment un mouvement complètement inverse. Et sans la volonté politique de le faire. Vous avez même, par exemple, Aujourd'hui, les réseaux ferroviaires qui fonctionnent très bien, c'est les lignes TGV qui relient les grandes villes entre elles. Oui. Et ces lignes-là, elles sont très bien entretenues et tout fonctionne très bien. En revanche, vous avez tous les réseaux secondaires, les réseaux ferroviaires secondaires, je veux dire qu'ils sont laissés à l'abandon, n'exagérons pas, mais enfin, en tout cas, ils ont des défauts de maintenance majeurs et vous avez perpétuellement des avanies, des retards, etc.
Bien sûr.
Et si vous voulez, c'est illustratif de la façon dont finalement, tout est concentré dans les grandes villes et on abandonne le reste de la France.
Oui, oui. Fernand, est-ce que tu aurais une question à poser maintenant ?
Alors moi, je reviens sur le lien entre, l'historique de la prolophobie. Donc, vous l'avez fait remonter à mai 68 et puis au beauf de Cabu. Est-ce que cette prolophobie a changé avec le wokisme ou qu'est-ce que le wokisme a apporté de nouveau à cette prolophobie qui préexistait avant elle, avant lui ?
Alors assurément, je dirais que la prolophobie a représenté un formidable, le wokisme a représenté un formidable coup d'accélérateur à la prolophobie qui existait déjà. Il y avait donc dans les années 90 est arrivée des États-Unis l'idéologie du politiquement correct, donc qui a conduit à ce que on ne puisse plus rire de tout et on emploie des mots un petit peu alambiqués, des euphémismes, etc. Et donc ça avait déjà commencé à ce moment-là. Et puis la bande dessinée, le cinéma, les Dupont-Lajoie, etc., qui préexistaient déjà auparavant. Et puis le wokisme s'est greffé là-dessus. Donc le wokisme, c'est une forme d'extrémisme du politiquement correct. C'est-à-dire que c'est la version complètement dévoyée du politiquement correct et exacerbée. Et effectivement, en augmentant le nombre d'interdits, en faisant en plus, en particulier en France, de l'immigré ou par exemple de la personne de religion musulmane la figure du martyr victime de l'oppression menée par l'Occident suprémaciste, etc. Ça a exacerbé le manque de considération vis-à-vis du français ordinaire qui est d'ailleurs accusé d'être celui qui pratique constamment le racisme, la misogynie, et en tout cas qui est celui qui est coupable de toutes les phobies dénoncées par le wokisme. Parce que ce sont les élites qui inventent, qui enrichissent le champ lexical du wokisme chaque jour, mais elles-mêmes, elles s'extraient du périmètre des accusés. Et elle désigne uniquement les Français, Français des couches populaires.
Et c'est le tour de passe-passe qui est un peu à l'origine de votre livre.
Exactement. Et donc à ces deux égards-là, le wokisme a considérablement, d'une part, donc en rétrécissant encore davantage le périmètre de l'humour autorisé et en faisant que l'humiliation, le mépris, les propos, l'ironie finalement. Se concentre toujours sur le beau, enfin, le français ordinaire. Et en plus, en redoublant les accusations contre lui et en le faisant finalement le responsable de tous les maux finalement de la Terre.
Oui. Mais est-ce que cette nouvelle mentalité n'est pas radicalement différente des principes chrétiens ?
Je pense que oui. Et tout à l'heure, je parlais de la décence.
Oui.
Je pense que la décence est quelque chose qui fait partie, d'une certaine manière, de l'anthropologie chrétienne. En tout cas, peut-être le respect de son prochain.
Oui, bien sûr.
Et le respect de son prochain, c'est Rousseau qui dit je me méfie de celui qui aime le tartare pour être dispensé d'aimer
son voisin.
Aujourd'hui, dans les dîners mondains, ça fait bien de se préoccuper, je le disais tout à l'heure, des problèmes écologiques, et ça fait bien de se préoccuper du sort des pays qui sont plus pauvres que les nôtres, etc. Mais par contre, se préoccuper des Français pauvres, ça ne... Si vous voulez, ça ne... c'est pas perçu comme valorisant sur le plan moral.
Est-ce que c'est
moral.
Pas quand même un peu une caricature un peu grossière de la réalité, ça?
Je pense que c'est quand même assez vrai.
Oui.
C'est-à-dire que
j'avais un dîner récemment, c'est pour ça que j'y pense, et c'était des gens qui, je pense, estimaient qu'ils faisaient partie des élites, hein, et certainement. Et ils avaient le souci quand même un peu de, parce que actuellement on assiste à une recrudescence de la misère. Je vois dans le quartier où j'habite, qui n'est pas un quartier pauvre, elle est à tous les coins de rue. Et de la part de gens qui ne sont pas des professionnels de la mendicité. Autrefois, vous aviez des professionnels, la mère du truc, qui demande toujours de l'argent à la fin de la messe. Non, là, ce sont des gens qui ne sont pas toujours les mêmes, qui ont quelquefois bonne mine, et qui ne sont pas tous des ivrognes. Et je trouve que cette misère nous interroge.
Bien sûr. Mais j'ai bien peur quand même que la plupart des personnes qui habitent dans les centres-villes, je dis bien sûr pas 100% et, oui. et c'est heureux, mais la majorité en tout cas, si vous voulez, par exemple, je suis assez frappée de voir que dans des centres d'hébergement d'urgence, y compris dans des centres paroissiaux, on en vient finalement à héberger des migrants très très fraîchement arrivés et à côté de ça il y aura des SDF français de souche qui par contre seront à la rue et ça a pas l'air de poser plus de problèmes de morale que ça.
Mais est-ce que ça relève pas plus de directives, en fait, de directives de des responsables politiques ou
Non, honnêtement je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui c'est, si vous voulez, sur le plan de la valorisation de la ce qui est aujourd'hui vu comme la plus grande vertu morale, c'est de l'accueil de l'autre, l'accueil de l'étranger, l'accueil, ça c'est vraiment vu comme la plus grande forme d'ouverture d'esprit, et c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est à l'aune de ça qu'on évalue la vertu morale. Et d'ailleurs le wokisme a redéfini les contours de la vertu morale aujourd'hui. Aujourd'hui, pour apparaître vertueux, il ne faut pas dire « je suis patriote, je suis enraciné et je crois dans le modèle de la famille traditionnelle ». Ce n'est pas ça aujourd'hui qui est vu comme la
vertu. Mais alors, je suis complètement dépassé.
C'est possible. aujourd'hui, la vertu, c'est de se conformer à la doxa wokiste. C'est de dire je suis sensible aux discriminations LGBT, je suis sensible aux plaintes des transphobes, je suis sensible à l'islamophobie et je suis sensible à la misogynie. Vous voyez, c'est, aujourd'hui, c'est, la vertu morale, elle est définie de cette manière-là. Et si vous dites, encore une fois, je suis patriote, c'est davantage considéré comme... un défaut.
Un défaut. Bon, alors pour nous laisser reprendre notre souffle après toutes ces nouvelles, nous allons passer une chanson encore.
Oui, nous allons passer Nino Ferrer, La maison près de la fontaine.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, l'éternité. Autour il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur. Se baigner tout nu, tout noir à
avec les petites filles et les canards. HLM a fait place à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré. L'essence, la guerre, la société. Et c'est normal, c'est le progrès.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez le Libre Journal de la France fidèle, présenté par Philippe Richard, accompagné de votre serviteur Fernand. Nous avons la chance d'avoir dans notre studio une consultante en communication, essayiste de surcroît, qui depuis peu fait l'unanimité autour de son nom dès qu'on parle de prolophobie. J'ai nommé Diane de Bourguédon, dont l'étude, intitulée Les Indésirables, est parue il y a 2 mois aux éditions Fayard dans la collection Pensée Libre.
Bon, nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Vous nous avez appris des quantités de choses. Alors, je vais vous poser des questions un peu disparates et peut-être un peu provocatrices. Vous préférez convaincre vos contradicteurs ou les agacer intelligemment ?
Je préfère les convaincre parce que mon souhait...
Mais est-ce que vous espérez les convaincre ?
J'ai un petit fond d'espoir, mais si vous voulez, mon souci, c'est la France. Mon souci, c'est la France. Et je pense que la France va mal. Donc si je me contente d'agacer, je ne suis pas certaine que ça va vraiment faire avancer les choses.
Très très bien, très bonne réponse. Et quelle critique, vous avez eu des critiques dans la presse, et quelle critique vous a paru la plus injuste ou la plus pertinente ?
J'ai eu énormément de, enfin pas énormément, mais j'ai eu des remarques derrière des commentaires de personnes qui me reprochaient précisément de parler de là où je parlais, c'est-à-dire qui me reprochaient, compte tenu de mes origines et la classe à laquelle j'appartiens, de prétendre appartenir, enfin en tout cas défendre la cause du peuple. Et il y a même quelqu'un qui a dit oui, cette personne fait ça pour elle parle de la prolophobie pour gagner de l'argent. Ça m'a blessé parce que c'est pas très agréable d'entendre ça, et ensuite c'est évidemment parfaitement faux.
Oui, bien sûr.
Bien évidemment. Donc voilà, donc j'essaye de montrer qu'en tout cas je suis assez sincère. J'ai pas de calendrier arriviste
derrière.
Oui,
mais est-ce qu'il y a une critique qui vous a paru justifiée ? Par exemple, un aspect de votre étude un peu incomplet ou...
Il y a une critique que j'entends qui est celle, par exemple, qu'on me reproche de jeter l'huile sur le feu. C'est-à-dire que en mettant le projecteur sur le... de manière en tout cas très, très visible sur le mépris de classe, et en le décortiquant finalement et en l'exposant sans voile, effectivement, on pourrait imaginer... Mon objectif, c'est qu'il y ait à nouveau une solidarité, une cohésion sociale. Mais peut-être qu'en faisant ça, je peux obtenir l'effet exactement inverse, qui est justement de creuser l'incompréhension et le ressentiment entre les classes et accentuer la souffrance que ressent déjà une grande partie des Français en leur mettant le nez dessus, finalement.
Oui, mais comme ce sont les élites qui vont lire cet ouvrage, peut-être qu'elles y trouveront, non ?
Alors, je pense pas uniquement, et d'ailleurs, ça m'a particulièrement touchée, puisque j'ai eu des commentaires sur les réseaux sociaux, et notamment dans beaucoup de cas de personnes issues du monde agricole, hein, qui est un milieu auquel je suis très attachée, et qui m'ont dit merci de parler en notre nom, et nous lirons votre livre avec plaisir.
Bon, et une dernière question. Avez-vous peur d'être catalogué politiquement à cause de ce livre ?
Moi, c'est déjà fait, donc...
c'est de la fausse innocence de ma part.
j'ai eu un engagement politique par le passé. Je me suis présentée d'ailleurs aux législatives, donc... tout à l'heure, la personne, il y a une question qui demandait si j'avais connu un déclassement social. J'ai pas connu de déclassement social. En revanche, j'ai connu une forme d'ostracisation à cause de cet engagement politique. Je l'ai connu, je le connais. On se défait pas facilement de cela. Donc j'ai connu une certaine forme de mise à l'écart, en tout cas de mon milieu d'origine. Et donc, je n'en ai pas tellement peur, à vrai dire.
Ah bon, de votre milieu d'origine ?
Bien sûr.
Ah bon, ça c'est un comble. Et bon, une question que j'avais inscrite. Est-ce qu'un café filtre à 7 euros est un acte politique ?
Oui, je pense que je pense que oui, en effet, tout à fait.
Et peut-on être prolophobe et aimer le camping ?
Oui. Alors, vous savez aussi, il y a la mode des campings de luxe qui se développe. Donc, tout dépend ce qu'on appelle camping. Et puis, vous avez aussi, bon, ça c'est un petit peu dommage, mais vous avez des personnes qui se plaisent à un peu à se moquer et à aller dans ces lieux-là précisément pour se moquer. Donc, ça arrive, ça.
Ah bon ?
Ouais.
Ah, ce sont des gens quand même particulièrement vicieux. Et bon, eh bien, madame, il me reste à vous remercier infiniment de tout ce que vous nous avez apporté. Je rappelle que votre livre s'appelle « Les Indésirables, traité de prolophobie », paru aux éditions Fayard dans La Pensée Libre. Merci, madame.
Merci, monsieur.
Merci, Fernand.
Vous venez d'entendre le libre journal de la France fidèle, dirigé par Philippe Richard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le 23 mai 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.